C'est du direct du Vanilla Café. Ouais, c'est direct. En direct du Vanilla Café, les 24 heures de la matinale. On y est depuis 9h ce matin jusqu'à 9h demain matin au 48 rue André Joanneau, au Près Saint-Gervais. Les 24 heures de la matinale. Et on reçoit, bah là, c'est Jean-Marc Chapouli et puis Alexandre.
Costanzo.
Allez, Cotigo, Costanzo, Alexandre, Costanzo. Jean-Marc, on était il y a 3 semaines, un truc comme ça, il y a quelques... dans un restaurant, et tu m'as dit que tu commençais à travailler sur Pasolini et le football.
Oui, c'est un projet de film.
Un projet de film. Et donc, Pasolini et le football, bon, je ne m'attendais pas à ça, à Pasolini et le football. D'un côté, pourquoi pas. Et là, tu m'apprends que Pasolini, grand fan de football, grand praticien du football, organisant des équipes pendant les tournages, enfin vraiment, voilà, le football au quotidien.
En fait, il y a quelque chose qui est sorti il y a un ou deux ans et qui, d'ailleurs, est un peu à la mode, c'est qu'il a organisé, entre autres, des matchs de football aussi. Il en a fait un qui est célèbre. Où 6 mois avant de mourir, il organise un match de football contre l'équipe du film de Bertolucci, qui est 1900, qui est déjà un film aussi lié à une description du fascisme. Et lui, en face, il fait salaud, quoi. Et il y a deux styles, peut-être, de cinéma qui s'affrontent sur un terrain de football. Bertolucci avec son équipe et Pasolini et son équipe. Et Bertolucci et son équipe gagnent 3-0. Il est très énervé parce qu'il apprend par la suite que dans l'équipe, il y a 3 jeunes de l'AS Roma qui ont 17 ans, dont un qui est assez connu aujourd'hui, qui s'appelle Carlo Ancelotti, qui est l'entraîneur du Real de Madrid. Et ça, c'est la première petite explosion qui est sortie comme ça sur l'intérêt du football qu'avait Pasolini, en fait. Voilà. Bien sûr, après, moi, mes films, c'est des films de documents. Alors, il y a énormément de photos, on ne va pas les montrer à la radio. Il y a beaucoup d'extraits, même où on le voit jouer, par des films amateurs. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ce qui subsiste, c'est quand même des choses qui, on va essayer de vous les lire en partie, ont été aussi écrites par Pasolini. Pasolini a une profusion absolument énorme. Hein. C'est pour ça que c'est un sujet moi, qui me travaille depuis un moment, parce qu'il y a toujours quelque chose à lire, même sur ce sujet de la relation de Pasolini et football. Et ces articles, ils écrit notamment dans la presse sportive sur ce lien au football. Il y a un autre élément aussi qui, au départ, m'intéressait, mais qui devait être une fiction, mais qui ne tiendra pas, c'est que le jour où il est mort sur ce terrain vague, l'après-midi à 17h, il devait être dans un vestiaire de football pour jouer au football. Voilà.
Et donc il a séché son match.
Alors, ce qui est plus compliqué avec mon enquête aujourd'hui, parce qu'au début c'est annoncé comme ça par la presse, c'est que ça aurait été le mardi d'après, c'était pas le jour même. Mais là, il y avait quelque chose qui aurait peut-être pu être quelque chose un peu fictionnel, c'est-à-dire que Pasolini aurait échappé en effet à cette soirée noire, parce qu'il aurait préféré non pas aller avec ce jeune homme et peut-être aller jouer au football, puisque, comme on va le voir, enfin en tout cas moi ce que j'ai découvert, c'était vraiment sa première passion. Alors, le film en fait, c'est tout de suite, j'ai pensé à Alexandre Costanzo, qui est un ami, qui peut-être par ses origines d'un côté italien et aussi son grand amour de Pasolini, me permettrait, parce que j'ai toujours, je pense, un lien comme ça à avoir avec une sorte de collaboration dans les films, comme un dialogue, comme j'avais pu le faire avec Nathalie Quintane la fois d'avant, voilà, lancer le film aussi sur ce dialogue. Alors la première chose que j'ai pensé pour le film, c'était d'avoir une idée déjà du langage. C'est comment le football en Italie, en France on l'a ce langage, mais en Italie il est à mon avis beaucoup plus présent. Donc j'ai fait un petit lexique des mots, des mots de football, et on va commencer.
Abatino.
Le petit abbé est ce meneur de jeu à la technique gracieuse mais du physique délicat.
Bandiera.
Le drapeau d'une équipe n'est pas qu'un simple bout de chiffon, mais un joueur charismatique qui a passé sa carrière dans le club.
Blitz.
Opération éclair sur le marché des transferts.
Bomber.
se dit d'un avant-centre prolifique et généralement doté d'un physique imposant.
Biscotto.
On se partage le biscuit quand deux équipes conviennent d'un résultat qui les satisfait aux dépens d'une autre équipe.
Cucchiaio.
Attends, excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de lumière. Nom donné à la panenka en raison de la trajectoire incurvale du ballon, similaire au profil d'une cuillère.
Capo canoniere.
Le chef des canonniers et le meilleur buteur de la Serie A.
Commissario tecnico.
Un nom bien solennel pour désigner le sélectionneur de l'équipe nationale.
Cartellino.
Alors, littéralement, le petit carton. Désigne la licence d'un joueur. En Italie, lors d'un transfert, on achète le cartellino du joueur. Une vision romantique du marché des transferts.
E catenaccio.
Stratégie ultra défensive où l'équipe défend à 8. On n'a plus de lumière.
Diffidato.
Au sens propre, voilà celui à qui on ne fait pas confiance. Désigne les joueurs sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune.
Dribblomane.
Dit d'un joueur qui dribble trop. Le dribble, c'est la maladie des Sud-Américains.
Fluidificante.
Latéral très offensif qui fluidifie le jeu sur les côtés.
Fuori classe.
Se dit d'un joueur dont le talent est tel qu'on ne le classe dans aucune catégorie.
Jolly.
Joueur polyvalent qu'on aime utiliser à tous les postes.
Lunetta.
La petite lune. C'est l'arc de cercle qui sied dans la surface de réparation.
Poker.
Utilisé quand une équipe marque 4 buts.
Porta.
La porte est l'équivalent de la cage en français.
Rigore.
La rigueur au sens littéral est une image employée pour faire du penalty de la solennité du tir.
Rossa.
L'effectif du romantisme à l'entraînement.
Tunnel.
Petit pont.
Trequartista.
Espèce en voie de disparition, c'est un joueur offensif placé aux trois quarts du terrain. Ce qu'on appelle les numéros 10.
Zona Cesarini.
Nom donné aux derniers instants du match en référence à Renato Cesarini, avant-centre turinois des années 1930 qui avait marqué plusieurs buts décisifs en fin de match. On peut voir que Pasolini, rapidement, il a aussi des questions qui lui sont posées. Pourquoi il aime le football ? On peut reprendre une interview qui a été faite par Enzo Biaggi, interview qui a été faite à la Stampa le 4 janvier 1973. Et Biaggi lui demande, bon, sans cinéma, sans écriture, qu'auriez-vous aimé devenir, monsieur Pasolini ?
Un bon footballeur. Après la littérature et l'éros, le football est pour moi l'un des grands plaisirs.
Alors sur ce rapport au langage, on peut retrouver un texte qui est dans une revue aussi de la Stampa où il va là aller plus loin sur son amour du football et peut-être aussi sur son langage. Comme si le football était aussi pour lui une façon de parler de littérature.
On peut avoir un football apparenté à un langage fondamentalement en prose et un football apparenté à un langage fondamentalement poétique. Pour mieux m'expliquer, je donnerai, en anticipant les conclusions, quelques exemples. Bulgarelli joue un football en prose. C'est un prosateur réaliste. Riva joue un football en vers. C'est un poète réaliste. Corso joue un football en vers. Mais ce n'est pas un poète réaliste. C'est un poète un peu maudit, extravagant. Rivera joue un football en prose. Mais sa prose est poétique, en Elsevier. Mazzola, aussi, est un elsevieriste, qui pourrait écrire dans le Corriere della Sera. Mais il est plus poète que Rivera. De temps en temps, il interrompt la prose et il invente sur le champ deux vers fulgurants. Notez bien qu'entre la prose et la poésie, je ne fais aucune distinction de valeur. Ma distinction est purement technique. Cependant, entendons-nous bien. La littérature italienne, surtout récente, C'est la littérature des Elvéristes. Ils sont élégants et à la limite esthétisants. Leur fond est presque toujours conservateur et un peu provincial. Bref, démocrate chrétien. Entre tous les langages que l'on parle dans un pays, même les plus argotiques et fermés, il y a un terrain commun. C'est la culture de ce pays, son actualité historique. Ainsi, justement pour des raisons de culture et d'histoire, le football de certains peuples est fondamentalement en prose, prose réaliste ou prose esthétisante. Ce dernier cas est celui de l'Italie, alors que le football d'autres peuples est fondamentalement en vers. Il y a, dans le football, des moments qui sont exclusivement poétiques. Il s'agit des moments de but. Chaque but est toujours une invention, est toujours une subversion du code. Chaque but a un caractère inéluctable, effoudroiement, stupeur, irréversibilité. Telle la parole poétique. Le meilleur buteur d'un championnat est toujours le meilleur poète de l'année. En ce moment, c'est Savoldi. Le football qui exprime le plus de buts est le football le plus poétique. Le dribble aussi est en soi poétique, même s'il n'est pas toujours autant que l'action du but. En effet, le rêve de tout footballeur, partagé par chaque spectateur, c'est de partir du milieu de terrain, de dribbler tous ses adversaires et de marquer le but. Si dans les limites admises, on peut imaginer dans le footballeur une chose sublime, c'est justement cela. Mais elle n'arrive jamais.
Elle arrivera avec Maradona. Mbappé, tu m'as dit.
Messi, comment ça ? Comment ça ?
C'est-à-dire qu'un joueur prend le ballon dans son terrain, dribble toute l'équipe et va marquer un but. Il avait imaginé comme l'inimaginable, peut-être, et comme justement la forme sublime, et elle est arrivée.
Et c'est Maradona qui a fait ça ?
Ouais, le premier. Il, bien sûr, tu le savais ? Voilà. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui saute de joie à côté de moi. Et alors bien sûr que cet amour du football, même à son époque, alors Pasolini, il est toujours à contre-pied. Il est contre-pied contre mai 68, où il ne croit pas à la libération sexuelle. Il est à contre-pied, et il est aussi à contre-pied sur le football. Et bien sûr, on lui reproche cet amour du football, qui est peut-être l'opium du peuple, qui est peut-être, un asservissement des masses. Et là, il rebondit encore. Il a... Ça, je vais le lire, mais après, Alexandre va aller plus loin parce que là, il fait un texte là-dessus. Mais à un moment, il réagit comme ça directement en me disant « Me demandez pas de prédire l'avenir du football ou est presque une offense. » Voilà. Et par contre, il écrit un texte pour en dire plus. Et d'ailleurs, la première question, c'est Monsieur Pasolini, vous aussi, vous aimez le football, hein, n'est-ce pas ?
J'ai joué au football dans les équipes universitaires. Et j'essaie d'y jouer encore tous les matins, quand je peux. Surtout quand je passe 10, 12 heures par jour à la visionneuse pour monter mes films. J'ai même écrit un récit sur un footballeur. Je ne voudrais pas non plus passer pour un défenseur aveugle du football et du sport en général, parce que je sais très bien que c'est une évasion. Quand Herrera participa à cet horrible entretien avec Moravia, en disant que le football servait à détourner les jeunes de la révolution, je lui ai dit ces quatre vérités, plus fort que tous les autres. Dans ces cas-là, je dis sur le football ce qui doit être dit, mais je ne veux pas passer de l'autre côté, avec ceux qui le renient aveuglément et totalement. Puisque les codes du langage sont semblables pour la société, pour la culture, pour le sport, il est compréhensible que certains aspects d'une société se reproduisent et se retrouvent dans le football. Le football est la dernière représentation sacrée de notre temps. C'est un rite dans le fond, même s'il est évasion. Si d'autres représentations sacrées, même la messe, sont en déclin, le football est la seule qui nous reste. Le football est le spectacle qui a remplacé le théâtre. Le cinéma n'a pas pu le remplacer. Le football, oui, parce que le théâtre est un rapport entre un public en chair et en os et des personnages en chair et en os qui agissent sur la scène. Tandis que le cinéma est un rapport entre un public en chair et en os et un écran, des ombres. Au contraire, le football est de nouveau un spectacle dans lequel un monde réel, de chair, celui des gradins, du stade, se confronte avec des protagonistes réels, des athlètes sur le terrain, qui bougent et se comportent selon un rituel précis. C'est pour ça que je considère le football comme le seul grand rite qui reste de nos jours.
Il n'a pas écrit sur la radio, mais on pourrait dire aussi que la radio met à distance les écouteurs et les lecteurs, comme le cinéma. Voilà. Mais en fait, moi, je pense qu'il aurait été très content, Pasolini, d'être dans ce café populaire quand tu descends à Auch. Et je pense qu'il aurait vraiment adoré tous ces gens qui, en effet, sont de l'ordre de la vie et aussi du danger. Alors, pour terminer...
C'est juste pour dire pour la radio, ouais. Il y a quand même le direct à la radio, ce qui n'existe pas au cinéma, ce qu'on est en train de faire là, par exemple.
Ouais, enfin, ils essaient de le faire à la télé, malheureusement.
Oui, on le fait aussi à la télé, ouais.
Mais ça donne pas grand-chose. En fait, on ne paie pas les gens qui parlent gratuitement, en fait. C'est, Godard, il avait une expression magnifique, il dit « La télé, en fait, c'est un robinet qui coule, comme ça, d'eau qui coule tout le temps, et de temps en temps, on met du poison. » Mais pour... peut-être terminer sur ce dialogue avec Alexandre, parce que c'est un dialogue pour moi avec Alexandre aussi, c'est que je suis tombé sur une lettre. Alors tout de suite, on pourrait dire, ah, on ressort quelque chose qui est plutôt intime, mais une lettre où il raconte un souvenir où il avait 3 ans. Et là, je pense que la question du film et du cinéma, la question même de la littérature peuvent se rejoindre, parce que ce texte-là que vous allez entendre, en fait, redonne, excusez-moi, je vais arrêter de dire en fait, mais ce rapport qu'on a tous, en tout cas que moi j'ai par rapport au football, c'est-à-dire un souvenir d'enfance, c'est quelque chose qui est un espace de liberté, qui était souvent à côté de la maison, dans un petit jardin où on retrouvait les copains avant de faire les devoirs ou après de faire les devoirs, et entre deux petits sapins, et puis notre mère qui nous appelait pour rentrer déjeuner ou dîner, pardon, excusez-moi. Et que ces moments de liberté, en fait, Pasolini, alors lui, il les a vécus, je pense, plus tard, mais il les a surtout vécus à 3 ans. Et suite à ce texte-là, Alexandre va enchaîner avec un texte magnifique de Scherrer, qui est une analyse qu'il aurait pu écrire parce que lui, il est philosophe.
J'avais 3 ans, 3 ans et demi. J'ai encore devant les yeux mon petit lit au pied du grand lit de ma mère et de mon père. J'ai devant les yeux la cuisine. Je ne savais pas écrire. Il y avait des voisins, un jardin d'enfants, des petits garçons qui jouaient au ballon dans un square devant la gare. J'ai éprouvé alors les premières tortures de l'amour sexuel, identiques à celles que j'éprouverai ensuite, jusqu'à aujourd'hui, atrocement aiguë, entre 16 et 30 ans. Une douceur terrible et anxieuse qui vous prend aux entrailles, les consume, les brûle. Les torts, comme une vague chaude poignante devant l'objet d'amour. De cet objet d'amour, je crois que je me rappelle seulement les jambes, et précisément le creux derrière le genou, avec les tendons raidis. Je me suis donc retrouvé dans la nécessité physique de nommer ce sentiment. Et dans mon langage, encore seulement oral, j'ai inventé un terme. Ce terme était, je m'en souviens très bien, tetta velata. Gettare il proprio corpo nella lotta. Jeter son corps dans la lutte. Formule empruntée à un chant de la résistance des Noirs aux États-Unis, cité dans l'expérience hérétique, et simultanément avec la variante mon corps, dans qui je suis, pourrait servir à résumer pour l'ensemble de l'œuvre de Pasolini la fonction du corps et sa célébration. Les deux vont ensemble. Chez le poète, cinéaste, romancier, journaliste et théoricien. Tout, dit le corps, part de lui, renvoie à lui. Que ce soit un corps éprouvé, dans ses émois les plus informulables, dès la prime enfance, ceux des autres offerts au désir ou à la répulsion, ou cette part sensible et matérielle qui supporte l'incorporel du langage et le pénètre. Car le corps doit s'entendre, soit de l'individu de chair, soit comme composante de l'expression. Dans un cas comme dans l'autre, il n'est jamais objet parmi les objets, ni simple organisme, mais signe. Tout Pasolini est à comprendre dans le cadre d'une sémiologie générale dont le corps est la clé. Il n'y a que corps, que des corps. Le défaut des systèmes abstraits de la langue ou de la création artistique est d'oublier le corps. De même que le vice radical de la société actuelle, néo-capitaliste ou société de consommation, est d'avoir réduit le corps à n'être que la copie d'un modèle imposé, écrasant sous le conformisme les singularités irréductibles par lesquelles le corps se manifeste et s'exprime. Tirer le corps de cet oubli. L'évoquer sous toutes ses formes, le célébrer, c'est en faire une arme pour les luttes variées que Pasolini a menées pendant sa trop courte vie. Lutte contre le conformisme de la langue de communication, reconnaissance des singularités dialectales. Lutte contre le conformisme de la société consumériste, ce nouveau ou second fascisme qui a produit une véritable mutation des corps. Lutte pour la naturalité du désir homosexuel. Elle regroupe toutes les autres en lui fournissant une illustration poétique, romanesque, cinématographique, avec le corps viril adolescent, Giovane et Giovanetto, formant le plan d'immanence ou le désir idiosyncrasique des divers combats pasoliniens. Mais le corps est déjà présent et revendiqué avec les premiers poèmes en frioulant et les commentaires théoriques sur la signification de la langue dialectale. Le dialecte, en effet, pour Pasolini, d'abord langage du corps, le linguiste en lui, de formation pourtant saussurienne, ne peut se résoudre à admettre l'arbitraire du signe, ce credo des structuralistes. La langue ne se laisse pas réduire en système signe-signifiant, pas plus qu'elle ne forme un simple moyen de communication, elle exprime. Elle est enracinée au corps, se trouve dans son prolongement en quelque sorte. L'expressivité de la langue est sa matérialité, sa corporéité. L'expérience hérétique donne plusieurs exemples pris précisément dans le dialecte, de mots dont aucune traduction exacte n'est possible, car leur sens se situe au ras du corps et dans les émois qu'ils suscitent, les évocations auxquelles ils procèdent. Plus encore, la voix. Accompagnement du gestuel peut perdre toute attache avec un vocabulaire attesté pour avoisiner l'onomatopée ou le simple vocable, devenir une invention singulière et momentanée. Telle la vocalise accompagnant la jubilation de Ninetto Davoli quand il vit la neige pour la première fois. Ou encore cette anecdote qui trace un point remarquable dans toute biographie de Pasolini. Son premier émoi, à l'âge de 3 ans, suscité par la vue de jeunes garçons, de leurs jambes, de la face intérieure de leurs genoux, ponctuée par l'invention verbale d'un tetta veletta, dépourvu de tout autre sens que le langage amoureux du corps, précisément. À ce niveau, non seulement le corps parle, mais il est parole, il est parlé.
Voilà, on va terminer là-dessus.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais dire tout ça, donc c'est des papiers découpés, découpés, posés dans collés dans un grand cahier qui doit faire. C'est du A3, c'est peut-être un peu plus
grand. Ouais, c'est un peu grand, mais en fait.
Un grand cahier comme un livre de compte, mais c'est des pages toutes blanches. Et y a
ouais,
des papiers
en fait,
collés.
J'ai toujours, je crois, rêvé depuis que j'ai 5-6 ans de faire de la bande dessinée, en fait. Et ouais. Donc j'ai l'impression de faire des cases et des bulles. Mais par exemple, de l'autre côté de ce livre, tu vois, il y a des pages alors, qui sont un peu différentes, mais que je faisais quand je faisais mon film précédent, La mer du milieu. Tu vois, alors donc c'est des collages, parce que je passais beaucoup de temps aussi sur des caméras de surveillance où je m'ennuyais, quoi, parce qu'il n'y avait pas grand chose à voir. Et ça donne des fois, il y a des choses un peu comme ça.
Des collages, des peintures, des dessins.
Voilà. Et alors, bon, il y a l'équivalent
cahier
en texte.
De travail.
Ouais, voilà. Qui sont des puis ça c'est des choses et oui, voilà
dans,
et là
dans,
je
dans un sens les images dans l'autre sens les textes
oui
mais deux projets différents deux moments différents
oui non c'est le même cahier parce que je
mais le
il
même
coûte
cahier.
Cher celui-là alors donc j'attends de le finir pour en acheter un autre mais sinon il pourrait avoir même un troisième film au milieu, c'est pas un cahier par film. Et voilà, mais par contre, j'ai besoin d'un grand format, c'est comme c'est un rapport d'espace, et en fait, je pense que c'est un rapport de montage aussi. C'est que là, je vois déjà, je découpe les textes, et déjà, je pense le montage, en fait.
Ouais, pouvoir les disposer sur la grande page.
Et les visualiser dans l'espace, et en fait, un film, c'est quand on arrive à le visualiser aussi spatialement, comme ça, dans des durées, qui correspondent à l'espace, en fait, la durée.
qu'à un moment les choses s'éclaircissent. Voilà, donc c'est des bases de travail, c'est pas encore un film. Hein.
Oui,
c'est,
bien sûr, ouais,
voilà.
On voit ça, quoi.
Là où c'était nouveau, et la première, c'est que c'est une première rencontre avec Alexandre, à qui j'en parle depuis longtemps, et j'ai entendu sa voix, quoi. Et d'un seul coup, je vois comment, ce n'est pas Pasolini, mais c'est une autre voix, et à la fois, comment un film existe comme ça, incarné.
Et ça me donne envie de continuer, ouais, voilà.
Bon, bah super, bah, ravi que cette... Que cette invitation ait été une petite, un petit,
peut-être un, merci. Un petit, c'était un passage,
un petit passage ouais. dans ce travail. Merci beaucoup.
Tu nous inviteras dans 3 ans quand le film sera fini.
Ben volontiers.
Merci.
Et on fera une projection ici au Vanilla.
Et on continuera à parler de Teta Velletta.
Ah, Teta
Velletta.
Mais ça, tu sais le
traduire. Teta Velletta. Alors,
parce que ça semble intraduisible. Pardon.
Oui, mais c'est bien.
Qu'on continue. Mais comment on continue?
Teta Velletta.
Comment on continue? C'est